Le faiseur de monde présente Robin des Bois, de la réalité au mythe. MITES. Et là, je leur dis, mais non, justement, c'est ça l'intérêt du projet. D'abord, oui, c'est un Robin des Bois, ça a déjà été fait plusieurs fois, mais là, c'est totalement innovant. Presque un Robin des Bois intimiste, juste centré sur les quatre personnages principaux, et très centré sur leur psychologie. Et du coup, pas besoin d'action, de cascade, de tournage à l'extérieur, tout ce qui coûte très cher. Juste quelques costumes, pas besoin de figurants, juste besoin de mettre un cheval dans le champ, et c'est tout. Pas de scène de combat, pas de vue extérieure du château, de l'intimiste, du psychologique, du dialogue. Une grosse, grosse économie en termes de tournage, et très, très originale en termes d'approche. Alors voilà le concept. Le principe, être plus proche de la réalité. En réalité, justement, Robin des Bois n'est pas un héros. Il n'est pas celui qui est proche du peuple et qui va voler les riches pour donner aux pauvres. En fait, c'est un ancien noble. Comme tous les nobles de l'époque, à peine né, on l'a enroulé dans la soie. Il a vécu dans la haute société, dans les châteaux. Le peuple, il sait pas du tout ce que c'est. Les gueux, il ne les méprise même pas. Il ne les connaît pas. Jusqu'à cette histoire, il n'avait jamais vu un paysan. Les seuls gens du peuple qu'il connaissait, c'était les servantes, qui pouvaient culbuter à loisir quand il est devenu adolescent, et puis les serviteurs, qu'il pouvait rudoyer quand il se sentait mal servi, ou qu'il pouvait demander à faire changer à son père quand il n'était pas satisfait. Rien à voir avec l'amoureux du peuple qui joue rien du tout. Au contraire, il est habitué au confort, il est habitué au banquet. Le pauvre, il est malheureux. Là, il se retrouve dans la boue, à dormir dans les bois, dans une espèce de tente puante, avec des moustiques, entouré de tout un tas de gens qui parlent d'ailleurs tellement mal la langue qu'il a du mal à les comprendre. C'est pour ça qu'il se repose sur quelques lieutenants bien choisis. Ceux qu'il arrive à peu près à comprendre. Les autres ont un tel accent, impossible de comprendre ce qu'ils disent. En plus, il est habillé comme un sac. Enfin voilà, il était habitué à avoir de la soie, du brocart, un noble quoi. Quelque part, pour lui, c'est une espèce de déchéance. La réalité, elle est là. Il déteste cette situation. C'est juste un concours de circonstances qu'il a mené dans les bois de Sherwood à endosser cette espèce de rôle de justicier, alors que, en réalité, justicier, pas du tout. Quand il va voler les riches, il aimerait bien garder un peu de cette richesse pour en faire quelque chose pour lui. Seulement, voilà, dès qu'il récupère de l'or, tout le monde se jette dessus pour en faire vivre toute la marmaille et tous les soldats qui sont dans la forêt. Il en est très très malheureux. C'est pas du tout un justicier. C'est plutôt... c'est même pas un cynique, en fait. Il est complètement paumé dans cette histoire. C'est un pauvre type, brinque-ballé un peu par la situation. Alors certes, il combat, mais en réalité, son objectif, c'est pas de prendre aux riches pour donner aux pauvres. Ça serait plutôt d'essayer de regagner son statut. Son véritable objectif, c'est ça. Récupérer sa noblesse, récupérer ses privilèges, son château. La populace, en fait, il s'en moque complètement. Il peut bien les envoyer se faire pendre, ou au combat, eh bien, comme avant. En avant, allez, allez vous faire tuer, et derrière, que ça soit pour ma gloire. Pas franchement un sale type, plutôt un pauvre type. D'ailleurs, en parlant de combat, et il faut aussi le savoir, en réalité, c'est un couard. Il a peur de combattre. Si sa spécialité, c'est l'arc, et pas l'épée. C'est justement parce qu'avec le tir à l'arc, quelque part, ça correspondait plus à sa personnalité, un petit peu littéraire, qui écrivait des poèmes, plus contemplatif, plutôt que de s'entraîner à l'épée, où quand on s'entraînait avec un maître d'armes, il fallait donner des coups, mais potentiellement, on pouvait aussi en recevoir. Ça lui allait pas du tout. En réalité, c'est un peureux. C'est un lâche. Et c'est pour ça que systématiquement, quand il y a des coups, il s'entoure de ces grands gaillards qu'il pousse à attaquer à ses côtés pour essayer de se protéger. Parce que le tir à l'arc, oui, c'est très bien. Et voilà, une arme à distance. On peut se cacher quelque part dans les bois, on prend pas de danger. Alors que malheureusement, vu le rôle qu'on lui a donné, malgré lui, ce rôle de héros, il est bien obligé d'emmener ses troupes avec des combats au corps à corps. Et c'est là qu'intervient Petit Jean, son second. l'autre personnage sur lequel, en termes de psychologie, on s'est totalement trompé. En réalité, Petit Jean est là pour encourager Robin et le soutenir. Car systématiquement, dès qu'il y a une opération à faire, une fois l'organisation faite, parce qu'effectivement, Robin, voilà, c'est quand même un cerveau, il est noble, il sait réfléchir. Au moment de l'accomplissement, eh bien c'est là qu'il va avoir peur. C'est là que sa lâcheté pourrait tout faire rater. Il hésite. Pourquoi donc aller mettre sa vie en danger dans cette histoire qui finalement n'a pas grand-chose à voir avec lui? Et là intervient Petit Jean. Petit Jean qui, malheureusement aussi, en termes de psychologie, ne vaut guère mieux. Complètement cyclotimique. En réalité, Petit Jean, il a besoin d'adrénaline. Il a besoin de son shot régulièrement. Il ne vit que par l'action. Il a besoin de ça. La situation lui va très bien avec Romain. Cette histoire de guerre civile, pour lui, c'est formidable. Et donc il est là pour épauler Robin, pour le pousser un petit peu, pour lui donner du courage, de façon à ce que Robin, effectivement, aille dans l'action et lui permette de participer à ces opérations qui lui donnent son shot d'adrénaline. Les deux se complètent pas mal, puisque du coup, Petit Jean, qui sait que Robin n'est pas forcément ni très adroit, ni très vaillant, est là pour l'aider un petit peu et pour le protéger, après l'avoir poussé au combat. Cette partie-là, effectivement, c'est la partie, je dirais, la plus importante de sa vie. Celle où, réellement, il se sent vivre. Le retour, par contre, est beaucoup plus compliqué. Après le shot d'adrénaline, il y a la descente. Parce qu'en réalité, parmi tous ces personnages complètement névrosés, Petit Jean est vraisemblablement le seul à avoir réellement un sentiment humain. Il aime Robin. C'est réellement son ami. Il a une réelle affection pour lui. Il est donc complètement rongé par la culpabilité de pousser son ami à aller dans ses combats et peut-être à perdre la vie ou à se faire blesser simplement pour son propre bénéfice à lui, à savoir avoir ce shot d'adrénaline. Bien sûr, il peut se cacher derrière le fait que Robin est un héros, qu'ils sont des justiciers, qu'ils font le bien, qu'ils vont voler l'or aux riches pour les pauvres, mais quelque part, il sait quand même que c'est très égoïste ce qu'il fait. Pousser son ami à mettre sa vie en péril, alors que ce dernier est un lâche, pour simplement avoir son shot d'adrénaline, quelque part, il est rongé par la culpabilité. Ça le rend parfois moins efficace sur le côté Robin, allons-y. Alors, il sait utiliser l'autre personnage, le troisième personnage de cette histoire, qui est Lady Marianne. Lady Marianne, effectivement, la muse, celle dont Robin est amoureux, la seule chose qui, d'une certaine manière, peut lui faire retrouver celui qu'il était avant, c'est-à-dire le chevalier, le preux guerrier prêt à aller affronter un dragon, bon, peut-être pas un dragon, en tout cas un lion, un petit lion, pour prouver son amour à sa belle. Et parlons-en de sa belle. Là encore, que n'a-t-on dit comme bêtise? La pauvre Marianne, mais comme Robin, c'est une noble. Elle a toujours vécu dans la soierie, le brocard, dans le confort. Qu'est-ce qu'elle irait faire avec un noble déchu, puant, habillé comme un sac, recherché comme un hors-la-loi? En réalité, c'est une perverse narcissique. La seule chose qui l'intéresse, c'est elle. Elle regarde régulièrement son miroir, 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 suis-je la plus belle? Bon, dans cette histoire, il n'y a pas de miroir magique. Mais évidemment, elle est la plus belle, et elle le sait. Puisqu'il y a deux hommes, les deux hommes dont on parle le plus, qui d'une certaine manière se battent pour elle. Le shérif de Nottingham et Robin des Bois. Elle n'a pas vraiment de sentiment pour Robin. C'est plus une amourette. Lady Marianne, elle est un petit peu jeune. C'est un petit peu son côté rebelle de fréquenter un hors-la-loi. Voilà, ça rajoute un petit peu de piment dans sa vie, peut-être avant le grand saut vers un mariage, une vie un petit peu plus rangée, qui lui est évidemment prédestinée par son tuteur. Donc d'une certaine manière, elle s'amuse un petit peu avec cette espèce de soupirant un petit peu original qu'elle doit aller voir dans des cachettes secrètes. C'est très romantique d'une certaine manière. C'est une jeune fille, elle s'amuse de ça. Mais en réalité, elle s'intéresse absolument pas à Robin. Et lui, cet imbécile, il ne s'en rend pas compte. C'est la seule chose qui le rattache presque un petit peu à son passé. La seule personne dont il a l'impression que quand elle le regarde, elle voit effectivement la noblesse, qu'il avait autrefois. Et donc, ça marche à tous les coups, et Petit-Jean peut lui jouer les violons en lui expliquant que telle opération lui permettra de briller aux yeux de Lady Marianne. Seulement, une fois que c'est fait, rongé par la culpabilité, comment est-ce qu'il peut se regarder dans la glace? Comment est-ce qu'il peut mettre un pas devant l'autre? Comment est-ce qu'il peut soutenir le regard de son compagnon, qui, lui, au contraire, au retour de l'action, est heureux? Il a survécu, il est un héros, il va pouvoir briller aux yeux de Marianne, alors qu'il était dépressif, songeur, couard, hésitant avant l'action, le voilà, une fois qu'elle s'est bien terminée, car elle se termine bien, lui totalement rayonnant, et en image miroir, Petit-Jean totalement effondré, un, parce que voilà, le shot d'adrénaline est terminé, deux, parce qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, et surtout qu'il va falloir qu'il le refasse, c'est-à-dire qu'il remette son ami en danger, pour de nouveau avoir ce shot d'adrénaline qui lui manque. Apparaît alors le quatrième personnage, le quatrième pilier de ce temple de la folie humaine. Et évidemment, ce quatrième pilier, c'est Frère Tuck, cette espèce de moine défroqué que tout le monde trouve très drôle et admire, et qui va, d'une certaine manière, manipuler à son propre compte, car lui aussi, évidemment, n'est pas du tout tel qu'on l'a décrit, Petit-Jean, qui va venir se confesser et chercher du réconfort. Et Frère Tuck, en réalité, voilà, lui, la seule chose qui l'intéresse, Dieu, tout ça, c'est fini pour lui, tout ça. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de bien boire, de bien manger, et d'être entouré de plein de gens qui, voilà, qui l'admirent et qui voient en lui quelque chose de supérieur. C'est très bien, toute cette cour, tous ces paysans qui croient en Dieu et d'une certaine manière qui croient en lui. Lui a tout intérêt à ce que cette histoire continue. La situation est parfaite pour lui. Mais pour que cette histoire continue, il a besoin, tout comme Petit-Jean a besoin de son shot d'adrénaline, que Robin continue à être le héros qui combat les méchants. Et donc, son rôle va être de soutenir Petit-Jean pour que ce dernier continue à pousser Robin dans son rôle de héros. À part Lady Marianne, mais elle, d'une certaine manière, la situation, elle s'en moque. Elle est au-dessus de ça. Elle est complètement, voilà, elle s'en moque. Frère Tuck, lui, il a une conscience très forte de la situation. Et donc, d'une certaine manière, c'est presque le plus égoïste de tous, puisqu'il a un intérêt personnel, égoïste, à ce que ça continue. Et donc, il va soutenir Petit-Jean et donner à Petit-Jean toutes les phrases et tout le réconfort nécessaire pour que ce dernier ait le courage de pousser son ami à continuer le combat. La notion de justice, de donner aux pauvres quand on va voler aux riches, c'est une invention de Frère Tuck qui a plongé dans la religion pour trouver des éléments qui permettront à Petit-Jean de mieux vivre sa culpabilité et de pouvoir ensuite de nouveau pousser Robin à continuer ses aventures. Et de cette manière-là, Frère Tuck pourra continuer à bien manger, bien boire et avoir toute cette cour qui le regarde comme un héros, car bien sûr, il participe aux actions, oh, il est pas fou, il est derrière, il va pas se mettre en danger, mais de temps en temps, voilà, il donne un petit coup de main et ça rehausse un petit peu, effectivement, la noblesse qu'il voit dans les yeux de ces imbéciles de paysans qui, de toute façon, sont pas capables de comprendre la situation. En réalité, sur les quatre, c'est le plus égoïste, puisque c'est celui qui a le plus la notion de la situation et qui manipule peut-être un petit peu plus les autres, mais c'est surtout le plus heureux. Car lui, rien ne vient assombrir son bonheur. Il est totalement amoral, contrairement à Petit-Jean qui passe, effectivement, d'un côté très virevoltant pendant les actions, à un côté complètement abattu à cause de cette culpabilité qu'il ronge. Voilà la base du film. En fait, c'est une espèce de tension psychologique entre ces personnages, vus sous un jour, voilà, beaucoup plus réel, beaucoup moins mythifié tel qu'on a pu le lire dans la grande littérature, qui sont des même des pauvres types, et Marianne quelqu'un d'égoïste et des personnages absolument pitoyables qui sont dans une situation sans vraiment l'avoir voulu, qui n'en tirent même pas un grand profit. Voilà, toute la toute la tension, en fait, qu'il y a entre la situation et ses personnages, c'est la trame du fil. Enfin, je veux dire, du film, justement, comme un fil tendu entre deux plots. D'un côté, Lady Marianne, qui se regarde, effectivement, dans son miroir, un peu méprisante, un petit peu loin de tout ça, qui minaude un peu pour Robin et pour les beaux yeux de tous les gens qui peuvent l'admirer. De l'autre côté, frère Tuck, qui cache de temps en temps son outre et qui, entre deux gorgées de vin, va essayer d'encourager un petit peu Petit Jean. Et puis, entre les deux, sur la corde raide, essayant de trouver un peu leur équilibre, ne cherchant même plus à progresser, Petit Jean qui pousse un petit peu Robin. Voilà, avec ce rôle entre les trois, Petit Jean étant à la fois la béquille et l'aiguillon de Robin, et frère Tuck étant d'une certaine manière la ligne de coke de Petit Jean. Hop, il vient se ressourcer un peu et ça repart. Et donc sur ce fil, alors évidemment, en dessous, hein, dans le vide, il y a les deux méchants, et entre autres le shérif de Nottingham, cette espèce de psychopathe mégalomane. Celui-là, on n'en a pas besoin. Et donc au milieu, voilà, sur ce fil en équilibre, Petit Jean qui essaie de pousser un petit peu Robin, chacun essayant de garder plus ou moins son équilibre, il ne progresse plus, écrasé par la situation et par leur mal-être. Alors bien sûr, la fin du film, depuis Errol Flynn, il y a des éléments qu'on ne peut pas enlever. Non, je ne parle pas du col en verre, ça a été enlevé. Enfin, il y a eu d'autres. Non, bien sûr, c'est la scène où le roi Richard revient. Et c'est d'ailleurs la scène de fin de mon film, mais c'est aussi la scène clé, parce que c'est vrai que pour l'instant vous pourriez avoir l'impression que le film est pas très, enfin il est un peu glauque, hein, ces personnages, franchement difficiles de, enfin voilà, ils sont pas très reluisants. C'est justement, tout repose en fait sur cette scène finale dans le film, où donc Petit Jean et Robin surprennent deux voyageurs et leur prennent la bourse. Et donc le noble, qui n'a pas encore été reconnu, demande à Robin pourquoi il fait le mal. Et c'est là, alors il faudra prévoir choisir un acteur. C'est là la grande tirade de Robin qui va expliquer qu'il est un homme perdu, d'abord perdu au milieu de ses bois, loin des siens, perdu, loin de ses racines, noble déchu, perdu aussi car s'il tombe entre les mains du shérif, il sera pendu, et que c'est un hors-la-loi, donc quelque part pour la loi des hommes, il est perdu, mais qu'il est aussi perdu pour l'éternité, pour la loi de Dieu, puisqu'il fait du mal pour qu'en ressorte un bien, ce qui est interdit par la Bible. Donc quelque part son corps d'une certaine manière est perdu, mais son âme aussi, voilà, c'est un désespéré, c'est un homme perdu. C'est à ce moment-là évidemment que le roi montre son visage et que Robin se rend compte qu'il n'est rien. Mais quelque part à ce moment-là, on doit voir une espèce de joie quand même, quelque part comme un soulagement, comme si enfant, on venait de le prendre la main dans le sac, il a fait une bêtise, mais voilà, il va être puni, c'est terminé. Il n'y a plus de questions à se poser, ça ne sera plus lui le maître, il n'aura plus à réfléchir, à gérer tout ça. En contrefond, d'ailleurs, on pourra voir le grand sourire de Petit Jean, qui lui se dit, voilà, l'adrénaline, elle est là, le roi est rentré, il va y avoir les combats qu'il souhaite. Mais quelque part, voilà, le roi est touché par ce désespoir et par cette tirade de Robin sur le fait qu'il est perdu, et lui répond ceci. Puisque je suis rentré, rien n'est perdu de la situation. Quant à ton âme pour l'avenir, n'oublie pas une chose, tout n'est peut-être pas perdu, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et là, en fait, doit se passer quelque chose d'extraordinaire. On doit voir le sourire de Robin après simplement le soulagement du petit garçon harassé qui va pouvoir déléguer ses responsabilités, le sourire de se dire oui, peut-être que presque un sourire cynique qui doit nous le faire détester. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte vraiment que c'est un pauvre type, oui, effectivement, si nous sommes vainqueurs, alors ce que j'ai fait sera magnifié, et dans l'histoire, mon nom sera adoré. Et voilà. À ce moment-là, on a vraiment affaire à quelqu'un, et on peut pas s'arrêter là, parce que, à ce moment-là, le spectateur le déteste. Le spectateur se rend compte que, vraiment, il est infâme, d'une certaine manière. On a totalement démoli le héros, et on a affaire à quelqu'un de... Et pourtant, c'est aussi à ce moment-là que le spectateur va se rendre compte que, finalement, c'est un homme comme les autres. C'est un homme qui a été brinque-ballé par l'histoire, c'est un homme qui est proche de lui, et donc il va y avoir l'empathie avec le spectateur. Parce que la dernière image, c'est quand le roi lui dit « Allons ». Et à ce moment-là, Robin comprend que, oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais donc qu'ils doivent vaincre, et donc qu'il va de nouveau falloir combattre. Et là, c'est comme si toutes les responsabilités qu'il avait déjà déposées à ses pieds lui retombaient sur les épaules. La peur au ventre, il se rend bien compte qu'il va de nouveau falloir prendre les armes. Et donc, son visage se décompose, c'est un petit peu comme si on voyait ses épaules baissées, la tête rentrée effectivement un petit peu dans les épaules, comme s'il était accablé. Et là, effectivement, est la dernière image, avec l'empathie des spectateurs. Voilà la trame du film, d'une certaine manière, on démolit un petit peu le héros, mais on le rend plus proche des gens, et d'une certaine manière, ils vont presque l'aimer plus pour ce qu'il est réellement après que pour cette espèce d'image mythifiée qui a traversé l'histoire. Et c'est pour ça que les spectateurs vont aimer ce film.
Et alors ?
Et alors, ils m'ont dit d'aller suivre une psychanalyse.